Alors, j'explique les oubliés, après j'ai expliqué tous les problèmes que j'ai avec les oubliés qu'on utilise. Et puis la dernière, c'est la dernière propriété, c'est la propriété temporelle, c'est comment ça s'inscrit dans le temps. Parce que l'idée qu'on a, et je vous l'ai présenté l'autre fois, c'est de créer des objets qui ne soient pas directement assujettis à des phases chronologiques préconçues ou des périodes. C'est-à-dire, on ne va pas dire ça c'est 12e ou ça c'est Moyen-Âge. On essaie justement de partir sur quelque chose de plus neutre pour reconstruire en fait éventuellement des périodes, une structuration du temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images que j'avais montrées, c'était vers là qu'on voulait aller. Donc, ce qu'on a trouvé comme solution, je vous dirai après les problèmes que ça peut poser, c'est de dater à l'année, avec une date de début qui commence en telle année et une date de fin, ça finit en telle année. Et l'objet, en fait, c'est défini par ces trois choses-là pour nous. Et si ça change, si une de ces propriétés change, forcément, c'est un nouvel objet, puisque un objet défini par ses propriétés. Alors, changer dans le temps, c'est pas parce qu'on change d'année que l'objet change. Évidemment, le temps est un petit peu différent. En fait, c'est si ça change de fonction. Par exemple, on a une église qui est transformée à la Révolution en dépôt de grains. Ben, on considère que c'est plus le même objet, parce qu'il a une fonction différente. Si c'est... une église et on lui ajoute un porche, il y a une emprise qui est différente, forcément il y a une logique spatiale qui est différente, donc on considère que c'est un nouvel objet. Donc à ce moment là il aura une nouvelle emprise, une nouvelle fonction qui reprendra la fonction de l'objet qui était là avant, et puis une nouvelle datation, puisque c'est à partir du moment où il y a cette nouvelle forme jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle transformation. Donc ça, ce sont les objets. Donc en fait, c'est quand on étudie un site, quand on fouille, quand on étudie du bâti, c'est en fait, ça correspond aux différentes phases qu'on peut reconnaître d'un bâtiment ou de l'occupation d'un site, dans lesquelles on prélève chaque fonction et on essaie d'identifier leur forme. Ça, c'est comment on les considère de manière un peu générale. Alors après, ça pose plein de problèmes. Ça pose des problèmes de forme, parce qu'on n'a pas toujours les emprises. Si on veut travailler sur des surfaces, on n'a pas toujours les emprises. Donc des fois, on est obligé de faire des choix. On a parlé hier, c'est pas toujours évident, puisqu'on ne peut pas faire ces quantités là où les couleurs un peu diffuses. Hein, on est obligé de trancher, c'est oui, non. Donc c'est présence ou pas. Donc ça, c'est pas toujours évident. Pour ce qui est de l'interprétation, s'appuyer sur le thésaurus du CNO, ça veut dire qu'il faut tout prendre en bloc, en fait. Il faut prendre tout le thésaurus, ce qui n'est pas sans poser de problème, de définition. Et surtout, ça pose le problème, si on travaille sur le temps long, sur de l'Antiquité jusqu'à nos jours, pourquoi pas, qu'il y ait des fonctions qui soient absolument constantes. Et on sait que c'est très, très... Parce que la notion d'espace public dans la ville antique, dans la ville du 18e, dans la ville actuelle, de là à dire que c'est la même, ou l'habitat, c'est très compliqué. Mais on est bien obligé de trouver quand même des solutions pour pouvoir, si on veut travailler sur le temps long des villes, des choses communes. Donc ça pose des difficultés de définition, vraiment pour ces éléments-là. Plus des problèmes si on travaille dans un système hiérarchisé, dans l'idée de passer d'une échelle à l'autre, ça pose aussi des soucis. Donc voilà. Et à part dire ça, moi on continue quand même dans les réflexions qu'on mène à utiliser ce thésaurus, sachant qu'il n'est pas bon. Alors, ce que je me dis aussi, c'est que de toute façon, on pourrait dire, bon allez, on va rebattre les cartes, on reprend tout à zéro, on remet tout à plat et on essaie de réfléchir à un nouveau thésaurus. J'ai bien peur que si on remet un thésaurus en place, il soit tout aussi mauvais, pour des raisons différentes, de celui qui existe là. Alors, c'est pas une bonne... C'est malheureux, hein, c'est un peu un pis-aller, mais on utilise ça à défaut d'utiliser autre chose qui serait peut-être, enfin, sans doute, aussi moyen. Voilà. Et pour les questions de temps... En fait, je me demande si mettre des dates de début et de fin, comme ça, se forcer à mettre des dates de début et de fin, parce que quand on, quand on travaille, on dit plutôt bon bah là on a on sait grâce à la céramique ou grâce à différentes sources, différentes informations qu'on a une qu'on a par exemple un cimetière à partir du 11e siècle. C'est quand on veut le traduire en année, on met quoi comme année? Parce que dire le 11e siècle, c'est un flou qui est finalement assez confortable, parce que on n'est pas obligé de trop préciser les choses, tout le monde est un peu d'accord. Mais si on est obligé de donner une date, si on dit que c'est en 1001, ben ça veut dire qu'en 1000 il n'y avait pas, et en 1001, 1002, etc., ça existait. Donc ça, c'est un petit peu difficile de mettre les choses comme ça. Et si on dit de manière systématique, tout ce que je considérais 11e siècle, je mets 1001 comme date de début. Mais finalement, l'effet de seuil qu'on peut avoir en disant 11e siècle, on le retrouve en 1001. Mais d'un autre côté, comment faire? Enfin, moi, c'est vraiment Et là, on peut rajouter tous les critères d'incertitude, ne pas les prendre, comme on disait. On a quand même des effets de... En fait, c'est des effets de source aussi. Hein. C'est lié, en fait, à la précision qu'on peut avoir des choses. Il y a un autre point, après j'arrête de parler parce qu'on a l'impression que c'est moi qui raconte tout, mais je voudrais écouter aussi vos réflexions. Il y a aussi quelque chose qui m'ennuie un peu avec ces histoires d'objets. On considère que un objet historique dans notre système, à partir d'un moment, il y a une année où il n'existe pas et l'année d'après il existe, mais intégralement. Et il n'y a pas en fait la durée de constitution de l'objet. Alors je parle pas de cathédrale où il y a des travaux permanents, c'est pas ça parce que on n'en est pas là, mais rien que pour la construction d'un bâtiment, ça peut prendre du temps. Et alors, est-ce qu'il faut, alors on pourrait être jusqu'au boutiste et se dire on considère que au moment où il y a le début de la construction et le moment de la fin de la construction, c'est un objet qui sera pas par exemple l'église ou la maison, mais qui sera l'église en construction ou la maison en construction, donc le chantier. Alors là, je me dis, on va plus s'en sortir, quoi.
Les cathédrales, c'est à l'infini.
C'est à l'infini, voilà, c'est ça.
La cathédrale est tout le temps au chantier, donc dans ce cas-là, c'est...
Oui, mais on peut quand même identifier des états. À partir d'un moment, on identifie des états. Mais sauf que d'un état à l'autre, c'est ça, c'est...
Moi,
j'ai des problèmes avec ça, voilà.
De façon purement théorique, je me dis que c'est intéressant, parce que les relations des autres objets urbains avec l'église quand elle est en construction ne sont pas de même nature que les relations avec l'église construite, qui est fonctionnelle, quoi. Mm-hmm. Donc, une espèce de buffer ou de machin de temps...
Et c'est aussi une façon d'identifier ceux qui sont tout le temps au chantier, justement. C'est pas anodin,
mais alors qu'est-ce qu'il faudra enregistrer? Il faudra enregistrer chantier ou cathédrale en chantier, maison en chantier, machin en chantier? Parce que là.
Oui, non, c'est purement théo. Enfin,
ouais. Et oui, mais voilà. Fin...
Ce serait un objet historique différent?
Eh bien, oui, dans la logique, oui. Mais...
Un objet habité ou n'est pas habité?
Ouais.
Une église est fonctionnelle, la réparation, c'est interdit.
Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans trop de... Enfin, j'ai l'impression, dans trop de détails. Parce qu'il ne faut pas perdre comme point de vue que l'idée, c'est de travailler sur l'espace urbain. Donc, si on commence à réfléchir à toutes ces petites choses, peut-être qu'on s'en sort jamais. Mais...
C'est vraiment une question d'échelle, finalement. Si on zoome sur la maison, sur le bâtiment, parce qu'il faut déjà avoir l'information sur une petite maison civile, est-ce qu'on a cette information de mois de chantier avant une occupation?
Non, on l'a pas. Surtout sur des maisons, on les a pas. J'ai pris un mauvais exemple.
À l'échelle de la ville, je pense pas que c'est forcément pertinent d'avoir tel élément et tel chantier.
Ouais, mais pour des gros édifices qui ont une incidence sur la topographie, par exemple,
les enceintes urbaines.
Mais peut-être qu'il peut y avoir un état un peu général, type en fonction ou pas en fonction, qui pourrait s'appliquer à des remparts, à une église, en construction ou désacralisée, puisque là, pareil, le bâtiment n'a plus la même importance. Enfin, donc peut-être qu'il peut y avoir un état qui pourrait fonctionner pour plusieurs objets, qui serait le en fonction ou pas en fonction, en fait. Et donc un chantier, enfin une église ou un bâtiment civil en construction n'est pas en fonction, il devient en fonction à partir du moment où il est entièrement construit, et puis à partir d'un moment donné, souvent la révolution ou autre, il n'est plus en fonction. Il est toujours là, mais il est réoccupé de notre manière.
Oui, mais s'il est réoccupé d'une autre manière, on est capable de caractériser l'occupation,
oui,
et donc...
S'il est réoccupé d'une autre manière, ça veut dire autre chose, ou s'il est laissé à l'abandon, mais toujours présent, je veux dire, ça existe à Aix, on a des églises qui ne sont plus, ou des maisons qui ne sont plus en fonction, dans les fonctions dans lesquelles elles avaient été construites, mais toujours présentes, et sur laquelle il y a toujours une vie autour et qui devient catalyseur de quelque chose, à ce moment-là, on peut la passer toujours présente, mais plus en fonction par rapport à la fonction à laquelle elle avait été destinée au départ. Peut-être qu'un état tout simplement en fonction, enfin, j'y ai pas réfléchi non plus avant, mais enfin, là, comme ça, c'est...
Oui, les logiques d'abandon, elles sont très intéressantes. Je pense aux églises de Nîmes, pendant toutes les guerres de religion. C'est très intéressant de prendre en compte ce moment où l'église est désaffectée, où elle est laissée.
Mais elle est toujours présente dans le paysage urbain.
Et réemployée à partir du moment de la réforme, etc. Donc, ça participe aussi de la temporalité de l'objet. Mm-hmm. Sans qu'il y ait pour autant perte de fonction. Il y a un abandon momentané.
On a la même chose pour les remparts, hein. Enfin, à partir du moment où on dit abandon des remparts, mais en fait ils sont toujours présents dans le cadastre, enfin, les maisons viennent s'appuyer contre.
Ouais, ça reste une limite ou...
Ça reste une limite dans sa fonction primaire qui était de défense, en fait.
Ouais,
qui devient simplement objet de position.
Alors, j'ai plus en tête exactement tout ce qu'il y avait dans le thésaurus qui est utilisé là, pour... mais je crois qu'il y avait... Il y avait monument, en tout cas, je crois. Mais alors, ça veut pas dire exactement la même chose. Je pense que monument, c'est quand c'est sacralisé, comme c'est plus en lien avec les... je vois Sandrine qui fronce les sourcils.
Je me souviens pas, parce qu'on a bien travaillé le thésaurus du CNO, et je me souviens pas la notion de monument.
Il faudrait que je le
retrouve. Parce qu'il y a une dimension patrimoniale.
Je me demande...
Pour en avoir
discuté avec Henri Galinier, à propos, moi j'avais travaillé sur l'amphithéâtre antique de Tours et ses transformations, et à partir du moment où l'amphithéâtre était abandonné, il m'avait dit qu'il faut considérer que c'est un monument, c'est-à-dire que ça prend une place dans la ville, mais c'est pas en fonction d'amphithéâtre ou en fonction... Il n'y a pas une fonction particulièrement dédiée. Il y a des fonctions qui peuvent être...
Mémorial et identitaire, dans ce cas-là.
Oui, où ça prend une place monumentale dans la ville. Je crois qu'il l'entendait un peu comme ça aussi. Ça prend une place monumentale dans la ville, comme une église. Mais il n'y a pas une fonction spécifiquement dédiée. En plus, il peut y avoir des fonctions très, très ponctuelles qui s'accordent dessus, mais dont on ne peut pas avoir connaissance.
Ça peut changer complètement, parce que c'est tout à les habitats. À la fin, si tu imagines, c'était un quartier... Probablement, par exemple, à Carthagène, qu'il y a aussi un théâtre réoccupé pendant le Moyen-Âge, ça devient un marché. Et il ne se rappelle pas plus de la fonction des théâtres, c'est les marchés. Et donc, ça prend une autre fonction complètement différente.
Mais si on arrive à identifier que c'est un marché, finalement, il n'y a pas de problème, parce qu'on dit que c'est le marché comme fonction dans le... C'est quand on n'arrive pas trop à les caractériser, ou quand c'est abandonné.
Oui, c'est pour des maisons civiles, notamment, c'est plus gênant de parler de monument quand on a juste une maison qui est abandonnée, qui n'est pas réoccupée, qui ne sert pas de marché, qui est juste en ruine, et c'est là...
Alors je crois qu'il y avait en ruine aussi, mais je vais regarder le... Il faut faire ça. Enfin voilà, peut-être qu'on peut... Enfin, je sais pas, c'est pas faire un... pas forcément obliger tout le monde à y refaire des tours de table, mais je sais pas si certains ont envie de présenter leurs objets ou de dire que la notion d'objet, peut-être que ça leur va pas, je sais pas. J'ai essayé de faire de vous montrer ce que moi j'entendais par là. Peut-être qu'il y a des points de vue complètement différents.
Pour notre travail, c'est complètement différent, par exemple, parce que quand on a prévu les projets, on voulait faire surtout pour les débuts un corpus de l'architecture résidentielle, parce qu'à Padoue, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas un catalogue des maisons, on ne savait pas la chronologie des maisons et tout ça. Et donc, notre objectif principal, c'était les maisons et introduire toute l'information de la lecture stratigraphique d'archéologie du bâti. Comment cette information pour nous donner des dates sur l'histoire sociale, économique et tout ça. Et donc, la majeure part des problèmes qui Bastien se pose, on ne se les pas posé. Je me les pose maintenant parce que on a décidé de faire attention à deux points fondamentaux, la typologie des maisons et la chronologie. Mais après, on a vu, oh, je vais peut-être maintenant, parce que je vous dis que c'était tout très grossière, parce qu'on est parti des maisons, mais après, on a vu, bon, il faut aussi qu'on mette les formes écrites, l'iconographie et tout ça. Mais après, on a commencé maintenant à voir aussi la documentation archéologique qui a relation avec les maisons. Et pour la technique constructive, il faut aussi, c'est fondamental pour nous, pour établir la chronologie, de voir les églises. Parce que c'est le seul monument qui est vraiment daté. Et donc, par exemple, pour les phases plus anciennes, les tours du XIe siècle, on a la vérification chronologique avec les églises, la technique constructive et les matériels des églises. Et donc, on a aussi mis les églises, bon, on les va mettre maintenant. Quel est le problème typologiquement? On dit ça c'est un tour, ça c'est une maison tour, ça c'est un palais. Mais la tour est seulement deuxième ou troisième, ça devient un palais. Et donc, mais on a mis seulement tour. Et donc, ça est déjà un gros problème. Comment est-ce qu'on va faire pour représenter les changements de typologie? Et pour la chronologie, c'est encore pire. Parce qu'on a dit c'est onzième, c'est deuxième, c'est troisième. Mais bon, maintenant je me rends compte que celle du 11e, il y a aussi la même chose au 3e, bon, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on documente celle qu'on voit encore. Et donc, bon, je trouve ça assez problématique. Bon, on va voir, parce qu'on peut quand même mettre différentes chronologies pour les mêmes bâtiments. Notre problème principal, et que hier vous avez parlé aussi, est comment les représenter. Parce qu'on a commencé à faire les deux dimensions. Mais c'est assez naïf, je trouve, avec les SketchUp. Et les troisième dimension, pour ce que j'ai entendu, c'est pratiquement impossible de les mettre dans les GIS. On ne sait pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites les GIS tridimensionnels? Si.
On est en train de travailler avec l'École centrale de Nantes sur un projet de SIG 3D. Ils ont scanné toute une maquette du port de Nantes qui fait la taille de la table, sensiblement. Et sur tous ces petits bâtiments, on a des informations donc, d'occupation, d'utilisation, d'évolution dans le temps, parce que c'est des chantiers navals, en fait, pour être précis. Et donc, pour l'instant, ce sont des bidouilleurs, des ingénieurs, mathématiciens, informaticiens, donc il n'y a pas encore de produits utilisables par le grand public. Enfin, nous, on essaie d'intégrer nos données archéologiques sur leurs données industrielles. Et dans les 3 ans à venir, normalement, ils aimeraient mettre en place...
Et donc, vous êtes parti dans les structures tridimensionnelles,
ouais,
déjà.
Ouais, ouais. Avec les tailles de toit et panelures, un lidar qu'on avait récupéré nous permet aussi de faire des modélisations du terrain.
Ok, ça on l'a déjà fait avec les lidars. Hein. De les représenter, je le trouve assez dur. On va voir.
L'utilisation n'est pas aisée, alors parce que pour l'instant, ils n'ont pas réfléchi à une approche grand public. C'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on peut faire des interpolations, on peut demander de croiser le type d'utilisation avec le surfacique, savoir si des ateliers de conserverie, par exemple, utilisent tel ou tel espace, est-ce que ça part plus loin, enfin, ce genre de questions qu'on peut avoir pour la sociologie et l'espace, finalement. Donc ça, c'est des questions de lancement opérant. Par contre, on est encore sur du bidouillage et sur de la construction. Et les problèmes qu'on rencontre, nous, c'est d'intégrer des éléments en termes de topologie pure, des éléments qui sont sous le niveau actuel. C'est-à-dire que quand on est sur des éléments qui sont encore en élévation ou qui ont disparu, mais sur un niveau de circulation actuel, ça va. Quand on arrive sur des niveaux à 10 mètres sous terre, avec la géomorphologie, avec ces spécificités, on a des problèmes de topologie, de calque, tout simplement. C'est difficile de questionner un emplacement sur des emboîtements comme ça, sur 15 mètres de stratigraphie.
Je me rappelle qu'on avait essayé une fois pour les représenter d'utiliser Google Earth et d'attacher à les maisons actuelles les stratigraphies. Et ça marchait, seulement que c'était bon, ce qui est en épreuve, je ne sais pas. C'est quelqu'un de vous a fait aussi ça. Est-ce qu'il y a la possibilité de l'utiliser pour ton propre.
Nous, à Aix, on a fait tout un quartier du Palais Comtal sur lequel il y avait la porte d'Italie, une grosse porte de la ville d'Aix. Porte antique. Et donc il y a une revue en 3D qui a été entièrement refaite par rapport aux données archéologiques et qui ont été ensuite basculées, donc mappées avec photos actuelles et représentations anciennes, et tout refait sur Google Earth en fait. Donc là pareil, donc on peut se balader type Street View, mais dans l'ancien, dans l'antique, dans le 14e, dans le 15e, ça a été fait entièrement depuis l'antique jusqu'au moderne, mais seulement sur un quartier. Ça marche bien, mais c'est assez lourd. Quoi. C'est encore.
La qualité.
Bah, suivant les ordinateurs, ça joue en fait aussi. Si on a un très bon ordinateur avec une bonne carte graphique, ça marche très bien, c'est très agréable. On peut cliquer sur les objets, avoir l'information du texte qui arrive, des sources, des photos de fouilles ou autres. Et puis bah, sur d'autres ordinateurs, ça plante complètement. Donc c'est encore et c'était très réduit, donc on n'imagine pas à l'échelle d'une ville. Là, c'était vraiment deux îlots, quoi. Et il a obligé aussi à faire des vues. On ne peut pas se balader tout le temps partout non plus. Quoi. C'est pas tout à fait de la 3D, c'est de la 2,5D. Donc, et il y a très peu de. Il y a du sous-sol, mais en fait, c'est un jeu de calque. Et c'est dans. Enfin, après, c'est dans 3DS Max où on joue avec des creux dans le plan, en fait. Où on va avoir les égouts ou des caniveaux en dessous. Mais là, on fait apparaître ou disparaître des objets, en fait.
C'est consultable, ça, non ? Internet.
Je crois que sur son site internet, c'est consultable sur le site de Jérémy Théoris.
Et comment vous faites pour. Parce que quand on travaille comme ça sur une longue période sur la ville, il y a une stratification qui est différente, enfin des niveaux de terrain qui sont différents avec la stratification entre l'Antiquité et maintenant. Et forcément, si on veut visualiser le bâti antique ou le bâti actuel, les niveaux de sol ne sont pas les mêmes.
Alors justement, là, on
a... Parce que c'est fondamental pour comprendre le bâti.
On travaille avant tout grand public, et donc oui, bon, on a soulevé le problème dès le départ. Dans le plan, les niveaux ne sont pas les mêmes. Il a décidé, lui, de faire un niveau de sol plus ou moins correspondant à l'actuel, enfin un petit peu en dessous, pour pouvoir tout mettre sur le même plan, c'est-à-dire que le palais comtal et de toute façon là dans ces stratigraphies-là on est à 1 mètre de sédimentation, enfin entre l'antique et le médiéval, donc c'est pas
énorme. C'est pas colossal.
Par rapport à d'autres endroits où on est à plusieurs mètres, là ça aurait pu poser problème. Nous on a réglé le problème en mettant à peu près tout au même endroit, ce qui permet lors de la balade de pas avoir des effets de suivant si on passe de l'antique ou autre, on se retrouve avec la chaussée au niveau de la vue, auquel cas il aurait fallu remonter. Donc bon, on a réglé le problème en mettant plus ou moins à la même hauteur, on va dire. Mais et encore une fois, le problème c'est la lourdeur, c'est les équipements, suivant les ordinateurs. Mais c'est vrai que sur Google Earth, c'est un objet 3D indépendant. Nous c'était pour du grand public, c'était livré avec un petit carnet et puis un CD-ROM et on a un petit installateur, un .exe qui se mettait dans l'ordinateur. Et puis sinon, après il y avait un lien vers Google Earth et qui permettait de mettre également donc les plans mappés sur Google Earth. Et les objets 3D, mais de bonne qualité, bien meilleurs que SketchUp. Quoi. C'est vraiment. Oui, SketchUp, c'est du cubique, et puis voilà. Mais,
C'était une des premières choses qu'on avait vues.
Oui.
Quand je l'ai vu, j'avais pas gardé bien les PowerPoint.
Mais puis on s'est rendu compte aussi du problème entre les données archéologiques, la précision. Bon, ça répondait à plusieurs années de fouilles, plusieurs décennies de fouilles. Et l'imprécision qu'il peut y avoir entre ce qui avait été recalé, moi ce que je pouvais recaler par rapport à des plans raster, par rapport à des fouilles anciennes sur la topographie en Lambert 2 ou pas du tout géoréférencé que moi je géoréférence, des plans, enfin voilà, tout ça a fait qu'on a fait quand même il y a eu un texte qui a été fait pour expliquer quelles étaient les méthodes en fait de géoréférencement de l'ensemble et pourquoi on a choisi tel ou tel, enfin voilà. Au final, on a pris un plan qui avait été fait dans les années 60 par un architecte pour le premier PSMV, qui avait l'avantage, dans un seul et même plan raster, de présenter aussi bien les vestiges antiques connus à l'époque que les vestiges médiévaux et le plan actuel, enfin, le plan des années 60. Donc on avait pris celui-là puisqu'il n'était pas si mauvais que ça, et on a fait tout rassembler sur ce plan-là. En fait. Et ça correspondait en plus plus ou moins à ce que moi j'avais pu géoréférencer à côté avec des erreurs bien entendu, mais bon. Donc j'imagine là ça a duré à peu près, donc c'est un travail qui a fait sur 6 mois, hein, donc lui il est tout seul pour faire la 3D et on était 4-5 personnes autour de lui, entre ma chef dont Yannick lui donnait toutes les informations archéologiques, moi tout ce qui était plan et puis un architecte du patrimoine de la ville puisqu'il y avait tout le palais comtal du 14e, enfin Et c'est un travail de très très longue haleine avec énormément d'allers-retours, de corrections.
Mais le résultat, c'était bon.
Et le résultat était bon et on recommença sur le quartier de la cathédrale, donc pareil, qui a une occupation de plus de 2000 ans.
J'avais une autre demande pour tout, parce qu'on a parlé plus fois que ce qu'on fait, qu'on a un fonds écrit qui se rapporte à un quartier, par exemple. Bon, j'ai beaucoup de. Assez. De fonds textuels qui me disent les palais de cette famille étaient dans cette rue. Qu'est-ce que je fais? Parce que on s'est posé les problèmes, mais je n'ai pas compris si on l'a. Qu'est-ce qu'on doit faire?
C'est une vraie question. Donc le texte, c'est une tenure, c'est pas une parcelle. Donc c'est quelque chose qui est juridique, qui n'a pas nécessairement de valeur foncière, et c'est l'équivalent contre la tenure et la parcelle qui déjà pose problème. Donc après, il y a le problème de la localisation de la parcelle au sein de la rue. Parce que finalement, ce qu'on arrive à caler, c'est les maisons de carrefour, le coin de rue, qui sont dûment signifiées, donc ça c'est facile. Il y a une marge d'incertitude énorme de positionner le palais, la maison, ou la parcelle elle-même au sein de l'île.
C'est une vraie question. Cette famille, les maisons en pluriel de cette famille, parce qu'il n'y a pas d'où tu as les familles ont la maison assez distribuée, ils ne sont pas dans des quartiers, mais en même temps, ils ont beaucoup de maisons dans un certain rue. Et pour moi, c'est fondamental de dire cette famille, il est placé surtout dans cette rue. Mais comment les mettre?
Pour l'époque médiévale, on a beaucoup de problèmes comme ça. Et la seule localisation sur laquelle on peut attacher ça, c'est la rue. Donc il y a un polygone rue. Et sur ce polygone rue, en fait, va être attaché un certain nombre d'informations concernant la rue. Mais pas concernant les parcelles attenantes, mais concernant la rue. C'est la seule localisation sur laquelle on peut rattacher la donnée, en fait. Après, le problème, c'est que sur cette rue, va avoir énormément d'informations. Qui ne concerne pas seulement la voirie en tant que telle, il peut y avoir des vestiges sous la voirie aussi qui sont attachés au domaine public, et on a des informations également sur cette voirie qui sont attachées à des domaines privés attenants. Bon, là, nous, on a tout mis dans le même sac, j'ai envie de dire. C'est un peu le problème où on va arriver. Enfin, pour l'instant, vu qu'on commence, on n'a pas trop de problèmes, mais je pense qu'on va avoir des rues, ça va être exponentiel, la donnée. Donc il va falloir la séparer à un moment donné, ou enfin, peut-être autre chose, mais nous on s'attachait à la seule localisation qu'on avait, c'était la rue.
That's not always true, isn't it?
Sorry.
It's not always true.
Non, mais c'est la seule localisation.
I mean, in the sense that you don't always have the roads, and you can't trust the roads to have been there in the medieval either.
Ça dépend aussi. Si on connaît le tracé ancien plutôt qu'on a des plans, c'est le polygone de la rue tel qu'elle était à l'époque.
Si on connaît la localisation de la rue, en effet, si on ne connaît pas la localisation de la rue, on revient peut-être à une échelle encore supérieure qui est le quartier. Si on connaît le quartier, enfin, moi j'essaye d'attacher la donnée sur la localisation la plus sûre que j'ai actuellement dans le SIG. Si j'ai pas la parcelle, j'ai la rue. Si j'ai pas la rue, j'ai l'îlot ou le quartier. Si j'ai pas le quartier, j'ai le bourg. Mais là, j'attache pas des données. Enfin, aujourd'hui, je me restreins à la rue. Je fais pas la même chose sur un bourg. Enfin, sinon.
Ben, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire, parce que effectivement, peut-être que ça sert à rien du tout de rattacher des données au bourg. Parce que de toute façon, on n'en fera rien, on les analysera jamais.
Voilà,
ça permet de dire, voilà, j'ai fait tout mon travail, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais avec la source que j'avais. Mais finalement, si on n'en tire rien, même finalement, peut-être de rattacher à la rue, je ne sais pas si, pour faire de l'analyse spatiale, ça dépend hein, ce qu'on veut tirer, ça dépend la précision. Mais
par rapport à la rue, nous, ça partait de l'idée sur la toponymie, en fait, où on a beaucoup de rues qui ont les mêmes tracés, les mêmes, et qui vont changer de nom 2, 3, 4, 5 fois. Donc il fallait d'abord attacher à la rue un certain nombre d'informations, et c'est derrière ça où on s'est dit, si on commence à attacher à un objet différents noms, avec différentes chronologies, on peut attacher différentes
mais là,
choses aussi.
Quoi. Là, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que vous, finalement, ce qui vous intéresse, c'est de travailler sur les rues et pas sur les maisons, les parcelles ou les occupations qui sont.
C'est travailler sur les sources plus, en fait. C'est essayer de pouvoir intégrer un maximum de sources par rapport à un objet. Donc là, nous, je n'ai pas encore finalisé dans le SIG, c'est toujours dans les bases, en fait. Hein. C'est qu'on a un espace où on peut remettre une information concernant cette. cette localisation.
Ouais, là, dans la discussion, il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a la notion d'étude, enfin la rue en tant qu'objet d'étude.
Mm-hmm. C'est ça, je pense que c'est vraiment ça.
Mais après, il y a le fait d'utiliser une couche rue comme référentiel, comme référentiel géographique. Et à partir de là, quand tu sais que tu as un référentiel et que tu greffes le même type d'information toujours sur le même référentiel, là, derrière, tu peux commencer à construire quelque chose. Et c'est quand même deux aspects différents. Donc là, on est dans un cas, tu parlais d'objet tout à l'heure, où on a un objet rue, mais qui a deux finalités. Un comme référentiel géographique, donc ça c'est une notion fondamentale dans les SIG, hein, parce qu'on a toujours un référentiel, donc on sait que c'est là-dessus. Et après, il faut se conditionner dans le fait que toutes les informations, donc une même information soit toujours greffée par rapport au même référentiel. Et puis après, ben, y a la logique observation, enfin analyse de l'évolution de la rue, qui va impliquer d'autres choses, et voire même peut-être un autre référentiel.
Oui. Il me semble que dans l'étude de la ville depuis Cerdan, Marc Coneza avait fait en rattachant, parce qu'il y avait des informations sur les à l'échelle de la rue, je pense pas à l'échelle des maisons, sur les gens qui habitaient la rue. Mm-hmm. Et donc je crois qu'il avait traité ça en termes de flux, un certain nombre de populations rattachées à la rue, et regarder ensuite des questions sociologiques, des choses comme ça.
Ouais, mais dans ces cas-là, on est bien sur ce que tu dis. En fait, l'objet, c'est la rue, et on lui met des attributs qui sont les occupations qui sont connectées à cette rue. Mais c'est pas tant les occupations qui sont intéressantes que ce qui se passe sur la rue. Et là, on est vraiment sur une autre échelle, et sans doute l'échelle de l'espace, enfin de la ville, quoi, puisque la rue, c'est.
I'm not really sure where I'm following all of this, but you're discarding the possibility of working truly comparatively because many cities don't have roads.
Oui, ou pas de nom. Il y a des rues qui n'ont pas de nom, et à ce moment-là, on peut pas faire ce travail, effectivement. Si on n'a pas de rue, et si on n'a pas de nom, ou si on n'a pas de source qui décrit.
No, I mean, just actually, they did not have roads. Not I don't have roads, but the city did not have roads.
Et elles ont des passages, des voies d'accès.
Well, yes, but you can't really conceptualize them as roads. It's not the same thing. You have open space, you have maybe squares, maybe just fields.
Mais à ce moment-là, ce n'est pas vraiment des villes.
Oh, yes. Low density urbanism, ever heard of it? Comme en Afrique, les Mésoamériques. L'Asie du Sud.
Je sais pas, je travaille pas vraiment sur ces villes-là, mais
c'est un petit peu comme les hôpitaux finalement sur les
hôpitaux. Il y a quand même des espaces de circulation entre les bâtiments
qui ne sont pas caractérisés spécifiquement par un empierrement, par des recharges. Par contre, on voit dans la manière dont sont agencées les différentes maisons que cet espace est dévolu à la circulation. Un espace de circulation peut être qualifié de donc. Route, c'est-à-dire un terme un peu trop précis, mais espace de circulation.
Mais il me semble que d'un point de vue juridique aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais la rue, c'est un accès sur l'espace public. Le fait qu'il y ait des rues ou qu'il n'y ait pas de rue a aussi un sens juridique important, parce qu'on peut accéder à l'enclos maisonné dans un espace villageois ou urbain, je ne sais pas, mais on peut accéder à l'enclos maisonné sans. Enfin, la faculté de l'enclos d'avoir accès à la rue lui définit un accès sur le public et ça lui donne un statut juridique particulier. Donc.
Qui dépend pas mal aussi des époques. C'est-à-dire, si on travaille sur le diachronique, voilà. De toute façon, il faut peut-être revenir à des niveaux de description qui soient peut-être plus généralistes, donc peut-être niveau de circulation plus que route ou ruelle ou enfin, on a pas mal de.
You wouldn't always know even that, would you? Or the public-private divide isn't clear either. So there is lots of. I mean, I think the point I'm making is rather that if you want to work comparatively, if you tie it to the road or a circulation system, you are creating a teleological system, something that already has its end goal within sort of the start. No.
Pourquoi
because you essentially already have decided that it needs to be a circulatory system.
La ville.
The supposedly public space. Mm. But we don't know. In most cases.
Mais ça peut se, il peut y avoir une typologie dans laquelle on est sur le type ville Europe, enfin ville à rue, disons, ville avec accès à espace public de type rue.
I'm not saying that for European settings it sort of makes sense to perhaps have a different typology, but that will be operating on a different level than working truly comparatively, which is on a lower level, because you can't discuss in the same way the space of a European city with a low-density city. And so if you create your data systems to connect everything to that level of the European city, you're discarding the possibility of working comparatively at any level, because you need to deconstruct everything in order to reconstruct your data on a more basic level where you don't know these things.
La question à poser aussi, la rue, ça veut aussi le référentiel spatial pour positionner des éléments dont on ne connaît pas précisément la localisation.
Oui, tout n'est peut-être pas comparable.
Du coup, comment est-ce que tu pourrais positionner des éléments comparés?
But that is a very historical problem. It's actually more a historical problem than it is.
Historique aussi, finalement. C'est que certains éléments, parce qu'on a trouvé dans des fosses, par exemple, des éléments de météorologie, on sait que le quartier météorologique est tel.
How can you put things exactly on the GIS that you don't know exactly where they are? So my problem was from text. I have a reference.
Okay,
but he says, for example, he has references, archaeological references for metallurgy. And he knows that in that quarter somewhere there was a metallurgy fabric. But he knows exactly where, how can he put it on GIS? Because he doesn't have exactly the reference, how can he attach it?
I think you probably need a spatial analytical approach in where you try many hypotheses for where it's located.
I think it's a better place. I mean, I can try to estimate randomly or in a space accordingly to the spatial analysis. I'm not sure. When you have this textual approach or archaeological approach, you need to put it on a GIS. And you have to use either a polygon or a line or a point. So whether you use one or the other, you have to make a choice at some point.
But what do you propose in that case? Because, I mean, if you simply do not have the information, you can't map it.
To create street.
Why would you create a street again? If you do not have the metal, the metal fab, the activity change area, if you, and you don't have the street, why would you invent both out of thin air?
We can deduce the presence of
Yes, so you know something is missing, but you have absolutely no clue where it could be?
Oh, it was just a random example.
No. But I mean, in that case, you can't map it, right? It's quite simple.
But you have to point that in this area you have more metallurgy than the rest of these opened up.
Yes, but you could record the artifacts, the circumstantial evidence.
But at the scale of the city itself, you can just point all the objects themselves. I mean, you can zoom with cluster zoom and all this approach. If at the scale of this city, it would be too much.
Well, if you have locatory evidence, or if you have the documentary evidence, or you have documented where you found all the slags, all the different bits of metal, then you can put them in the GIS, easy peasy lemon squeezy.
So I can put a point.
Yeah.
But one point would not.
Depending on what kind of evidence you have, but maybe in some. I think we shouldn't be mistaking the tool for the objective we have. Sometimes your information might not fit the model of a GIS.
But in a spatial analysis, you need to.
Well, yes, but true spatial analysis assumes that you know everything. So you either start inventing things in an informed, critical way, or you don't. And when you do, you're very critical about that. So people can retrieve what you did. So you can try different hypotheses. But you can't analyze stuff you don't have.
But you have to express what you found in the field also. You have to.
Well, yes, but I'm just saying it's a different approach, a different objective. If you want spatial analysis, you need spatial information. if you want to say that you have a metal producing site, amongst other things, in a place, but you don't have spatial information, you can't spatially approach that. Your information does not allow. And that's all right, isn't it? It's just a different level of analysis.
Yeah, the level and the scale also. I mean, to express it at the scale of a big city, even if I'm repeating myself.
On peut peut-être continuer à reprendre l'idée des objets, parce que c'est effectivement ça dépend, enfin les objets, ça dépend de l'échelle à laquelle on analyse les choses, mais on peut peut-être, parce qu'on était parti là-dessus, on voit qu'il y a des choses très différentes. Est-ce qu'il y en a, Alexandra, tu disais à propos, enfin les problèmes que tu avais, enfin la réflexion actuelle que tu avais sur ces objets, les difficultés, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des approches différentes, qui... sur des objets. Enfin, moi, je me rappelle par exemple de ce que tu as présenté, Julien. C'était un peu différent de... Parce qu'en fait, toi, tu es parti sur les maisons actuelles et tout le potentiel qu'elles pouvaient conserver. Et j'avais l'impression, mais peut-être que je n'ai pas bien compris, que l'objet, c'était la maison, pour l'instant, avec la maison actuelle, avec sa localisation, avec sa parcelle. Et pour l'instant, dans ton travail, l'objet, c'était ça. C'était la maison telle qu'elle est. Et elle contient un certain nombre d'informations, mais ces informations, tu ne les as pas présentées encore comme des... Encore, je ne veux pas forcément que tu ailles par là, hein, je ne sais pas. Mais comme des objets. Par exemple, chaque état, ce n'était pas tant un objet que la maison, la parcelle telle qu'elle est. C'est un peu plus dans l'idée de l'inventaire.
Oui, c'est de toute façon, le premier travail que j'ai fait, c'est un inventaire de toutes ces maisons qui avaient un potentiel.
Et pour l'instant, c'est ça ton objet. En fait, c'est la maison actuelle. C'est ça ?
Oui, avec une réflexion sur ses états antérieurs quand même.
Oui, je sais, oui. Mais ces états antérieurs, ils ne sont pas enregistrés en tant qu'objet. Ce sont des descripteurs de l'objet. Oui, voilà, c'est ça, hein. Ouais. C'est un point de vue un peu différent. Alors, peut-être que c'est un moyen d'étude ou peut-être que c'est juste la finalité. T'as une idée de comment tu voudrais organiser les choses ou...
Non.
Non, pas exactement.
Et si tu veux les enregistrer en tant qu'objet, il faudrait qu'ils aient une emprise. Il faudrait pouvoir déterminer leur emprise. Est-ce que c'est nécessaire?
On n'est pas obligé de travailler avec des emprises à l'échelle de la ville. On peut travailler avec des points aussi.
Oui, d'accord.
On peut... Mais...
En fonction d'un truc chronologique.
Mais je suis pas en train de dire qu'il y a une solution et que je la garde.
Non, c'est rien, moi.
Vous la voyez là? Elle est là.
J'en sais rien, mais ça va.
Are we talking about analytical objects or objects we record?
Objects we record.
C'est
le
same.
Non, ça va.
Oui, donc éventuellement, les informations rattachées pour l'instant aux maisons actuelles, elles peuvent être découpées en points avec des périodes dessus, enfin, des choses comme ça.
Pourquoi pas. Et parce que je me rappelle, c'était très frappant l'image avec les petits dossiers là, avec les numéros de parcelles. Est-ce que par exemple, c'est une approche que tu fais de manière systématique, c'est-à-dire tu prends toutes les parcelles? Quitte à dire, cette parcelle-là, il n'y a pas d'informations sur
des
maisons médiévales. Parce que, est-ce que
en fait,
l'absence d'informations pourrait... Parce que si ton objet, c'est la maison actuelle, pour tout le potentiel qu'elle peut avoir, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre... Mais ça paraît gigantesque, surtout si on travaille sur 3 agglomérations. Prendre aussi les parcelles. Non, mais je
dis pas que personne... C'est comme tu es en train de réinventer les tests sur 15 ans, toi.
Non, mais toi, prendre
la directrice, elle dit stop.
Non, mais vous voyez là ce que je veux dire, dans une logique où les objets, ce sont les maisons actuelles, tu les prends toutes, y compris celles où il n'y a rien, pour dire il n'y a rien.
Parfois quand même, dans ces dossiers-là, c'est vrai que je les classe par les parcelles actuelles, mais il y a des divisions de maisons que j'ai interprétées comme des maisons médiévales. Et j'ai regroupé les deux maisons qui sont aujourd'hui séparées dans un même dossier, en fait.
D'accord. Il y a un mélange en fait des objets en fait.
Une maison, la maison que j'ai présentée à Alet-les-Bains, elle a des extensions aujourd'hui qui n'étaient pas là dans le premier état en fait, enfin dans l'état que j'estime état d'origine. Mm-hmm. mais je les ai quand même prises en compte dans l'évolution de la maison. Mais...
Oui, parce que tu es parti de l'état.
Parce que je suis parti de l'état,
l'état actuel. Ouais.
J'ai un autre exemple sur une autre maison à La Grasse où ben c'était le même type de maison que celle que j'ai présentée là, où en fait au niveau de l'arche qui sépare les deux pièces, la maison a été coupée. Donc aujourd'hui ça correspond à deux parcelles, deux maisons différentes, mais là je les ai mises sur le même, dans le même dossier. Parce qu'il y a une logique entre les deux, bon, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui existait auparavant. Là, j'ai déjà fait une interprétation en fait.
Quel est le, pour la France, est-ce qu'il y a un manuel ou avec quel labeur tu prends pour faire la classification de maisons? Tu as fait une classification de maisons pour typologie?
Oui.
Ok. Quel est le travail de référence pour ça?
Ah, il y a les travaux de Pierre-Garry Mourant sur la maison. Okay. Voilà.
Il y a que ça.
C'est quand même le gros et tout ce qui a été fait au cours de la maison médiévale.
Parce que c'est la seule chose que j'ai connue.
C'est vraiment là-dessus que j'en ai fait.
Il y a le volume sur Montpellier.
Voilà, c'est ça.
La maison médiévale aussi qui a commencé à faire cette typologie. Après, surtout le travail autour de Cluny.
Oui, c'est ça.
Parce que pendant un temps, c'était, je crois, à la fin des années 70, il y a eu des. C'était l'inventaire qui a essayé de mettre en place des. Je sais, ces bouquins, c'est assez rigolo. Qui ont essayé de mettre en place des systèmes de descripteurs de l'architecture, descripteurs normalisés de l'architecture, emboîtés. C'est hyper compliqué. Et puis c'est très peu interprété, c'est très.
Il y a beaucoup de faire les murs et pas l'intérieur.
Oui, c'est ça.
Et après.
Très aventureux.
Si dit à terme, c'est parce que c'est un état
possible en couple transformé aussi.
C'est ce que j'avais dit.
La réflexion
avec
que ça fasse. Mais je pense qu'à terme, il va falloir que tu fasses un choix un peu. Voilà, l'échelle de l'objet que tu veux. Est-ce que c'est la maison médiévale ou quelqu'un?
Tu en as beaucoup plus que les dossiers que tu as montrés.
Les expressions, etc. Voir les différents états. Et donc, dans le cas où tu as deux maisons actuelles qui est fait une maison médiévale, effectivement, donc ça justifie d'avoir qu'un seul objet.
Est-ce que j'ai moi maintenant commencer à le faire l'intérieur, mais je ne sais pas.
Par contre, dans le cas, je ne sais pas comment commencer.
On a bien compris que c'était un état de travail. Voilà.
Ça mérite réflexion.
Ouais, ça mérite réflexion de l'objet.
Le biais d'origine, c'est de prendre la parcelle actuelle comme référence.
Je crois que c'est ce que Cécile a fait aussi dans la maison actuelle.
Ça peut être, c'est un peu ce que disait Laure. Il y a la maison actuelle, ça peut être le lieu de référencement en fait. Et c'est pas forcément l'objet que tu étudies.
Oui.
Je sais pas. Et oui, il faudrait voir avec Cécile aussi. Parce que comme elle se pose la question de mettre.
Je pense que les fiches sont
mais c'est encore,
la maison actuelle.
Ce qui est encore plus.
On a fait un pseudo alternatif.
Parce que je voulais poser aussi une question à Cécile à partir de sa présentation. Parce que. Dans ce que tu as montré, il y a en fait, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y avait c'est plus un travail sur la commune avec plein de choses différentes. Et je voulais savoir si tu avais classé dans ta tête, ou tu voulais classer des objets, s'ils s'imbriquaient, parce que comment faire le lien entre des déclarations dans des sources fiscales et des relevés de canaux, tu vois, dans quel système, est-ce qu'il y a un système général de ça, ou est-ce que c'est des, alors t'as bien expliqué que c'était des points de vue, mais alors peut-être que c'est des points de vue qui ont des systèmes de réflexion sur l'urbain différents, et qu'après la synthèse, c'est une synthèse, je veux dire, que tu comptes faire comme ça, enfin je veux dire comme rédiger en réfléchissant, mais sans interrogation vraiment spatiale, assistée par des moyens.
Non, je sais pas comment. J'ai pas encore résolu le problème de savoir comment j'allais au sein de la SIG arriver à combiner l'analyse des graphes
ouais.
avec l'analyse des réseaux hydrographiques par exemple. Pour le moment, j'ai pas encore la solution. Et j'attends beaucoup du basculement en fait, des graphes à partir des registres fiscaux qui vont être donc basculés sur SIG, de voir ce que la comparaison entre les différents états du paysage peuvent donner. Et à ce moment-là, le croisement entre les données de terrain qu'on a, la architecture, en géophile, etc.
Mais les graphes, dans les graphes, les points, enfin les nœuds d'un, les nœuds des graphes, ça correspond à une déclaration ou à, enfin non pas une, à une, alors, à une parcelle.
Ça correspond à une parcelle, mais cette parcelle n'est pas identifiée, n'est pas rattachée à une parcelle actuelle.
D'accord. Ok.
Ça, c'est un travail qu'on fait manuellement, mais pas.
Oh, je comprends, mais donc ça veut dire que dans le graphe, bon, c'est assez clair. Il y a deux styles d'objets. Il y a le nœud qui est la parcelle, et il y a l'arc qui est en fait
le
lien avec une autre parcelle ou autre chose. D'ailleurs, c'est pas forcément une parcelle. Voilà, un lien de voisinage. Donc ça, il y a deux objets comme ça. Mais quand tu travailles sur les canaux, c'est pas, ou sur les maisons. Maison n'est pas forcément égale à parcelle. Oui. Donc tu as des objets qui sont un peu différents.
Mais c'est tout l'intérêt justement. Et comment de dissocier ces registres fiscaux, de les dissocier d'une représentation géographique très précise, parce que c'est pas l'intérêt ici, c'est justement de se détacher un peu de cette représentation géographique, mais avec les perches tambourées, parce que dans ces registres fiscaux, on a des mentions de rues identifiées, on a des mentions d'églises, de canaux, de rempart, etc. Ces éléments, je peux les localiser géographiquement, je peux les rattacher. Et donc, du coup, ça me permet quand même d'avoir ces perches, finalement, temporelles qui me permettent de remonter tous mes registres et de les recaler dans l'espace de manière floue, hein, c'est-à-dire que c'est un graphe qui va bouger. Et du coup, j'arrive à... Ce sera par zone, en fait, finalement. Je vais étirer mon graphe pour arriver à le replacer dans l'espace. Et du coup, ma mention de canon sur mon graphe va se localiser dans un espace et par exemple m'éclairer dans cette partie de la ville. Mes observations archéologiques n'ont pas révélé la présence de canaux, mais
alors que vraisemblablement il y a quelque chose par là, parce que d'après la
voilà.
Tu veux géoréférencer ton graphe par rapport en fait
à partir de points fixes.
Oui, mais ce que je veux dire, enfin moi, ce que j'ai ce que j'arrive pas à bien apercevoir, c'est qu'est-ce que tu vas étudier, quel est l'objet que tu vas étudier au final.
Alors, ça parce que la maison,
à un moment donné, j'ai bien compris que l'idée c'était de faire des synchronies là à différents moments, et j'imagine que c'est pour voir comment d'un moment à l'autre ce qui a pu changer d'un moment à l'autre.
Oui,
aussi.
Les dynamiques parcellaires.
Voilà, c'est ça. Voilà, et donc, c'est dynamique parcellaire, c'est quoi? C'est les dynamiques au sein des parcelles, la forme des parcelles.
L'occupation de l'espace, pas la forme des parcelles, parce que ça, justement, je ne l'ai pas. Mm-hmm. Je ne cherche pas à la voir. Mm-hmm. Mais c'est le découpage parcellaire. À cet endroit, il y a des regroupements de maisons, au contraire des divisions de parcelles. Il y a ce type d'occupation plutôt que tout
à l'heure. Donc, si j'arrive à suivre, en fait, l'objet qui t'intéresse, c'est plutôt la parcelle, en fait.
Oui.
C'est le
parcellaire plutôt que la parcelle en elle-même.
Oui, mais ce que tu enregistres, c'est quand même des parcelles pour comprendre les dynamiques du parcellaire.
Oui, mais pas d'un point de vue géographique. C'est pas la limite.
L'objet, c'est des parcelles théoriques. C'est bien ça. Oui, mais c'est quand même.
C'est pas la maison. C'est pas la maison au Moyen-Âge.
Voilà, d'accord.
Are the notes the owners of the parcels or the occupiers of the parcels?
Yes, I
know. No, but the notes are they the owners? Are they the reference to the de la propriété? Or are they les gens qui occupent?
C'est le propriétaire.
Non, propriétaire de la parcelle.
Les occupants peuvent être
différents. Mais on ne sait pas trop. Mais on
ne
sait pas forcément.
Non, le propriétaire.
Ça n'a pas duré longtemps.
On est cerné.
Le propriétaire de la parcelle.
Le tenancier. Parce que c'est lui qui déclare.
So in a way you could say it's the proprietary legal social geography of the city rather than the parcel geography of the city. C'est à grâce de la parcelle que vous pouvez faire ce chose, mais c'est pas les parcelles qui sont l'objet d'analyse, mais c'est les propriétés.
C'est la question entre une vision juridique et une vision foncière. C'est toute cette articulation de murs. Parcelles. Et encore en ville, on a souvent des tenures monoparcellaires. Si on va dans un espace rural ou périurbain, on a beaucoup de tenures qui sont multiparcellaires. Donc là, ça complique complètement. L'utilisation des sources foncières est complexe à cause de ça. Au-delà des niveaux de propriété multiples, c'est aussi cette articulation, et qu'on retrouve dans les aspects fiscaux, parce que. Qui renvoie plus à une représentation de l'espace qu'à l'espace lui-même.
D'où l'idée d'abandonner. De carrière,
c'est un truc que
qu'on peut faire empiriquement en main, mais qui est
absolument. Et puis aussi, hier, j'avais trouvé qu'il y avait dans les objets qui étaient, enfin, de ce que j'avais compris qu'ils pouvaient être des objets, dans ce qu'un certain nombre d'entre vous ont présenté, l'objet, c'était pas tant un objet historique qu'une source, en fait. On voulait placer donc des photos anciennes, on voulait placer on voulait géoréférencer des documents qui sont des documents textuels ou des plans anciens. Donc il y a aussi cette idée-là, j'ai l'impression, et c'est important. J'ai senti surtout dans les services de collectivité, pour vous c'était quelque chose d'important d'enregistrer comme objet une source ou une observation quand on dit là il y a un mur, là il y a la découverte de telle chose.
Ça participe de la connaissance globale de la ville, finalement. Avoir ces petits éléments-là, mis bout à bout, nous permet de comprendre un peu mieux l'évolution de la ville. Parce qu'effectivement, on a l'aspect opérationnel, j'en ai parlé hier, mais là, pour se recentrer un peu sur l'approche scientifique, notre objet d'étude, ça peut être la parcelle aussi. C'est la référence commune qu'on a pu mettre en place avec les architectes et puis toutes les personnes avec qui on travaille. Ça va être la parcelle telle qu'elle est à l'heure actuelle dans sa morphologie, et essayer de revenir sur les parcelles les plus anciennes telles qu'on on les perçoit jusqu'à la période antique. Et pour ce faire, on a l'orientation des rues, quand on peut avoir des éléments de connaissance, d'observation de suivi de travaux, par exemple. Et c'est en cela que l'observation ponctuelle au XIXe siècle d'un petit caniveau romain peut nous renseigner sur ces orientations-là. Donc on a besoin de ces petits éléments qui, une fois spécialisés, nous permettront de comprendre un peu mieux l'évolution de la ville. Après, je pense que...
Et puis il y a aussi le fait qu'en collectivité, le SIG est la base principale de l'outil d'aide à la décision pour tous les autres services, internes à la ville, en fait, pour les services des égouts, de la voirie. Et donc il faut que ça soit un objet d'archive également, consultable, avec un maximum d'informations pour que chacun puisse prendre sa décision assez rapidement sur les potentiels archéologiques, les dégâts potentiels, toutes ces informations-là. Donc, il faut qu'on rassemble un maximum d'informations dans cette même couche, et pas seulement sur une couche chronologique, archéologique. C'est que derrière, il y a beaucoup d'autres informations qui ne sont pas localisables autrement que par un point à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure les rues, parce que nous, on travaille beaucoup avec la voirie, les services de la voirie, et donc, il faut que lorsqu'on aille sur une rue, très vite on sorte un rapport de la rue, son existence, son potentiel.
C'est vraiment de l'inventaire, en fait. C'est vraiment de l'inventaire.
Il faut essayer d'aller tirer toutes les ficelles possibles pour apporter un maximum d'informations dans le SIG. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas un SIG véritablement analytique, c'est surtout un SIG d'archives rassemblé en un seul et même endroit un maximum d'informations sous toutes les formes possibles, en fait.
Pour en fait fermer le moins d'angles possibles pour des questions.
C'est
pour ça qu'il y a des planches.
C'est avoir de l'information à un temps rapide. C'est ça qui nous
mutualiser au maximum.
Parce que, par exemple, le géoréférencement de toutes les classes anciennes, une fois que tout est géoréférencé, c'est superposé, très bien et ça. Il n'y a pas d'étude là-dessus. L'étude, elle se fait quand il y a une question sur tel ou tel
aspect. Aujourd'hui,
on met tout et on dit tiens, alors là, maintenant j'ai tout ça. Voilà,
et même aujourd'hui,
ça ne donne pas forcément naissance à de nouveaux objets, justement.
Voilà, c'est ça. Ils sont construits au fur et à mesure des besoins, des nouvelles questions.
Et la question des vectorisations du cadastre et tout ça a été faite en partenariat avec tous les autres services. Alors, c'est pas seulement l'archéologie qui a décidé, non, en fait. Ouais. Il y a le service du patrimoine, le service de la voirie, où tout le monde a mis la main à la poche pour géoréférencer. Là, on va faire la vectorisation. Enfin, voilà, c'est mutualiser un maximum tous les coûts pour le bien de la collectivité, en fait. Hein. Donc, le CIGE, il est vraiment communautaire dans tous les sens du terme. Mais nous, en plus, voilà, à l'archéologie, on va essayer de rassembler toutes les données à retrouver derrière, en plus.